Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch, Super Laser Punch, et je crois que c'est uniquement en anglais aujourd'hui, puisqu'on va parler de Across the Spider-Verse, Spider-Man Across the Spider-Verse. On va aussi évoquer Secret Invasion, la série télé dont moi j'ai vu un épisode, et je crois qu'on a tous les deux vu un épisode, n'est-ce pas Johan ? Bonjour Johan, comment ça va ?
ça va super bien. Ça va.
T'as vu, j'ai voilà, subtilement là, fait la transition vers les salutations.
Et oui. Ouais, non, vraiment. Je pense que rien ne pourrait aller mieux. Là, j'ai ma fille, c'est ses grands-parents qui s'en occupent pour le mois à venir. Là.
Le mois entier.
Je regarde ma montre là. Je reçois. Ouais, le mois entier. Donc, je reçois dans une heure et demie. Mon nouvel écran ultra wide Alienware machin truc.
Ah, tu t'es pris un. Comment il s'appelle, 34WF machin comme moi ?
Ouais, c'est ça.
je suis un véritable influenceur de mes amis. Tu vas voir, il est beau.
Donc, ouais, après un benchmarking de 3 semaines, la conclusion était à chaque fois la même de tout le monde sur Internet que c'était le meilleur écran. Surtout si on avait des consoles, et donc voilà.
Très bien. Tu fais la mise à jour de l'écran, et tout marchera très bien. On va aussi parler de The Flash. On fait un petit détour par le DCEU. Alors, à la fin de l'émission, on en parlera. Je suis le seul de nous deux à l'avoir vu, donc j'en dirai quelques mots sans spoiler, évidemment. Mais oui, donc on en parlera à la fin. En même temps, je me dis que ça serait peut-être plus simple de parler d'abord de The Flash rapidement, et puis ensuite Secret Invasion, il n'y a pas vraiment de truc à spoiler, on va en parler rapidement, et après faire un plus long morceau sur Across the Spider-Verse et finir avec les spoilers sur The Spider-Verse, comme ça les gens qui écoutent, tu vois, service aux auditeurs.
Et en plus, comme ça, les gens qui écoutent sont obligés d'entendre parler de The Flash et de Secret Invasion, c'est malin.
Tu sais quoi ? Je me demande si on ne va pas laisser le meilleur pour la fin et le moyen pour le milieu et commencer avec le pire, à savoir Secret Invasion. Je pense qu'on va faire ça comme ça.
On a tout mélangé, Patrick.
Oui, je fais une sorte de salade de super-héroïsme. Allez, on s'en fout, il n'y a qu'un épisode qui a été... On a vu qu'un épisode de Secret Invasion encore. Le deuxième est disponible au moment où on enregistre, mais donc on ne l'a pas encore vu, on enregistre mercredi. Et donc, un épisode, ça va aller vite. Secret Invasion, c'est une série télé Disney+, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler parce qu'ils font pas beaucoup de bruit autour, et qui est basé sur un event assez important, comme beaucoup de ces événements-là, dans les comics Marvel, où les Skrulls, qui sont beaucoup plus méchants dans les comics que dans l'univers cinématique, les Skrulls donc qui peuvent changer de forme et changer d'apparence, ont envahi le monde de Marvel et ont pris la place depuis parfois très longtemps de super-héros. Notamment, pas que, mais essentiellement de super-héros. Et donc, l'événement à travers tous les titres, c'est basé sur la découverte que il y a des super-héros qu'on voit depuis des semaines, des mois, des années, qui étaient en fait des Skrulls. Et donc, toute la mécanique, c'est à qui on peut faire confiance, est-ce qu'on sait qu'un tel est un tel ou pas, et on peut même pas, du coup... leur demander « Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé la semaine dernière ?» Parce qu'ils s'en souviennent, parce qu'ils étaient déjà des Skrulls la semaine dernière. C'est pas que c'est arrivé, genre, là, tout de suite, tout à coup. Donc, c'est un événement qui est important. Là, c'est décliné en série télé, avec, comme souvent, quand ils reprennent ces titres, un focus, un scope beaucoup plus resserré. On a l'impression, on verra, hein, c'est 6 épisodes, mais on a l'impression que ça concerne que quelques-uns des super-héros qui seront impliqués dans la série et pas tous les super-héros de Marvel, comme c'était le cas dans l'event des comics. Donc, les trailers avaient l'air plutôt cool. Je vais me retourner vers Johan. Qu'est-ce que tu as pensé du premier épisode uniquement de Secret Invasion?
Alors, moi, je l'ai trouvé OK, sans plus. Je l'ai trouvé OK sans plus. Le vrai, il y a un vrai problème, en fait, dans ce pilote-là, c'est que un premier épisode comme ça est quand même censé, on va dire, t'accrocher un minimum pour le reste de la série. Et je trouve qu'il fait très, très, très mal ce job-là. Et pourtant, on voit qu'il essaye de le faire. Hein. Il essaye de nous choquer avec voilà, des choses, etc. pour faire qu'on fasse « Oh mon Dieu !» et puis qu'on revienne vite la semaine d'après. Sauf qu'en fait, l'effet escompté n'est pas vraiment là. Donc moi, j'ai quand même passé un moment, on va dire, entre neutre et positif, quoi. Mmh. On va dire très largement positif. J'ai trouvé l'ambiance quand même super bien. Je trouve qu'il y a des choses qui marchent. Il y a des choses qui fonctionnent quand même assez bien. Il y a des acteurs qu'on aime bien qui sont de retour, etc. Mais voilà, je trouve que la série fait des choix un peu bizarres. Notamment, je trouve qu'il nous en montre trop au premier épisode sur la partie donc, que tu as décrit. On ne sait pas qui est qui, mystère, machin. Et du coup, les effets qu'ils essayent de mettre en œuvre pour justement t'accrocher sont assez pathétiques, quoi. Mais pour l'instant, j'en veux pas trop encore à la série. Je me dis, bon, ils ont un peu raté leur début. Ça, j'y vois quand même un potentiel assez sympa pour la suite. Donc, ouais. Donc, je suis toujours là, moi.
Bon, moi, je suis toujours là parce que je crois qu'il en faudrait beaucoup pour que je ne sois plus là du tout. Et puis, soyons honnêtes, c'est que le premier épisode, ça a largement le temps de se rattraper. Mais moi, j'ai été quand même, pour rester poli, très, très, très déçu par ce premier épisode. J'ai trouvé qu'il n'avait absolument rien d'original. Disons que pour une série ou un propos qui va traiter d'un truc qu'on a déjà vu 1000 fois, en gros, c'est un truc d'espion et on ne sait pas qui est un espion, qui est un agent double, machin. Bon, ça s'est déjà vu des milliers de fois. Et c'est beaucoup plus que dans les comics sur ce registre-là. Parce qu'ils situent même l'action en Russie, donc on est pile guerre froide, machin. On n'est pas pendant la guerre froide, mais je veux dire, c'est ce genre d'ambiance. Et pour ça, il faut que tu sois soit original, soit que tu le fasses très très bien. Et sur ces deux points, la série tombe à plat, quoi. C'est pas du tout original. On aurait pu, avec les Skrulls, les machins. J'ai l'impression de voir non seulement 1000 films qu'on a déjà vus sur le sujet, mais en plus, c'est presque l'ambiance de la série Falcon and Winter Soldier, un petit peu, genre, ah, c'est des terroristes, ils vont faire des trucs méchants, ah, faut les arrêter, ok, on va les arrêter, ah, mais non, il y avait machin qui, en fait, on pensait que c'était, il était avec nous, en fait, il n'est pas... Bon, on l'a déjà vu 1000 fois, et c'est pas original, genre, avec des super-héros. C'est intéressant, l'idée qu'un super-héros soit, en fait, quelqu'un qui n'est pas celui qu'on pensait, et pas forcément parce qu'il va aller, il va aller au Parlement et détruire tout le Parlement, tu vois, c'est pas ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, les jeux d'alliance, etc. Bref, ça pourrait, mais là, pas du tout. Je trouve que les personnages qu'on voit, alors on sait, hein, dans la promo, on a vu Nick Fury 1000 fois, peut-être que ça viendra, il y a un petit mystère sur qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il machin, bon, peut-être que ça viendra, mais là, c'est juste chiant, quoi, il est fatigué. Ok, Nick Fury est fatigué, super.
En dehors de la scène d'introduction où on a eu quelque chose parce qu'on connaît le principe, on va dire, des Skrulls qui sont déguisés, etc. Donc il y a une espèce de, dans cette scène d'intro, il y a une espèce de tension, etc. Mais par la suite, on ressent jamais cette tension de merde, est-ce que c'est un Skrull ou pas, et tu vois, il n'y a pas ce danger du lui il va voir des gens, ses anciens collègues à droite, à gauche. Et jamais on ressent une espèce de tension où on le voit hésiter, où on le voit se dire merde, est-ce que je suis en train de parler à un Skrull ou pas. Il n'y a pas encore ça, quoi.
Ouais, alors, pas encore. Et c'est ça le truc.
C'est que la série, là, nous a déjà. Enfin, au premier épisode, on nous a déjà montré les personnages principaux antagonistes. Avec leur visage d'humain et leur visage de Skrull, quoi. Du coup, bah. Je sais pas si on aura vraiment cette tension-là dans la série.
Bah oui, parce que. Alors, on verra comment c'est. Encore une fois, hein, généralement, les séries ouais. Marvel, elles commencent très bien pour moi et après, ça se délite petit à petit. Ça se trouve, là, ça sera l'inverse. Mais par exemple, la tension qui pourrait. Enfin, tout peut être intéressant si c'est bien fait, mais là, ce qui pourrait être intéressant, c'est genre le long terme du remplacement. Et là, c'est utilisé uniquement pour dire « Oh, dans la confusion, tu as cru que j'étais truc et loi, en fait, c'était machin. » Bon, bref. Ouais,
en fait, c'est que pour que ça marche et pour que la série marche, il faudrait qu'il y ait des actions qui aient été faites dans d'autres films avant qui ont un but pour les Skrulls aujourd'hui et qu'à un moment donné, on se dise « Putain, il avait fait ça ouais. pour ça. »
Alors ça serait l'idée, ouais, évidemment.
Exactement, vraiment comme Battlestar Galactica où t'as les Cylons et sur 5 saisons, tu découvres que telle personne est un Cylon depuis le début, etc. Machin. Même lui, il y avait vraiment tout un truc sur ce jeu d'identité-là. Et je ne sais pas comment ils vont faire pour procurer un truc un peu similaire. Ouais. Parce que, comme tu le disais dans les comics, c'était un arc qui a été préparé, machin, il y avait des mises en place, etc. Là, moi, je sais que nous, comme on savait qu'il y avait le projet qui arrivait, on pouvait se dire, bon, bah, c'est peut-être lui. Enfin, il y avait peut-être ce jeu-là.
Oui, il y a encore. Il y a a priori des personnages.
J'ai pas trop adhéré à ça.
Ouais, il y a des personnages qu'on a vus dans les 3 ans qui ont précédé où on se disait, ouais, bon, là, a priori, voilà, et ça va peut-être arriver, donc pourquoi pas.
Mais du coup, je me demande si c'est vraiment le cas, en fait. Je me demande si c'est pas conteneurisé dans la série et que, du coup, ça soit pas trop impactant, en fait, pour. Pour le MCU, j'avoue que le scope de la série m'a un petit peu douché, quoi, parce que si c'est juste en série, est-ce qu'ils sont allés vraiment chercher des choses dans toute la saga, je sais pas quoi.
Bah, ça a l'air effectivement ce truc, et puis on va s'arrêter là, mais ce truc effectivement qui est frustrant, inquiétant, c'est que le scope est hyper resserré, quoi. On est vraiment sur une affaire d'un groupe. Enfin, on a l'air d'être sur une affaire d'un groupe terroriste qui veut faire des méchancetés de groupe terroriste. Sauf qu'ils peuvent bien se déguiser. Et il y a un truc qui m'horripile dans ce genre de choses. Je ne crois pas que c'était déjà le cas dans avant, ou peut-être que oui, mais c'est que les Skrulls, quand ils se transforment, leurs vêtements se transforment avec eux. Je ne sais plus si c'était le cas dans les précédents, dans les films. Mais c'est tellement... Enfin, tu vois, que quelqu'un puisse être un shapeshifter ou qu'un alien puisse être... Moi, ça ne me dérange pas scientifiquement, aucun problème. Mais qu'en même temps, ça fasse ses vêtements, alors là, non, ça suffit. Il faut un minimum de réalisme dans nos séries télé, tu vois. Donc, bon, ça, c'est vrai. Ça m'énerve. Mais c'est important, mine de rien, parce que dramatiquement, dans les scènes où tu peux dire « Ah, là, il se transforme ou il ne se transforme pas », c'est un des indices où tu peux redire « Ah oui, non, mais attends, là, il n'a pas tout à fait les bons vêtements, ou il n'a pas du tout les bons vêtements, donc ce n'est pas le bon. » Et pour simplifier les choses, j'ai l'impression, ils disent « Oh, allez, on change tout, ouais. Ça va. »
Ah, c'est clairement une facilité d'écriture incroyable, quoi, parce que du coup, tu t'affranchis justement de
mais tout. Ça serait même pas tellement compliqué, en plus.
Non, et sais. Puis même, ça ferait partie du sel du truc, quoi. Mmh.
Bon, bref, ouais. Pas super enthousiasmé par le premier épisode de Secret Invasion, mais on verra ce qui se passe avec les suivants. Encore une fois, ça n'est que le premier. Je vais parler un tout petit peu de The Flash. C'est marrant parce que avant, je sais pas à quel point on est influencé par notre Discord dans lequel on a une personne spécifique qui se reconnaîtra, qui est très très fan du DCU et qui nous en fait la promo régulièrement. Et j'avais l'impression du coup que avant la sortie du film, le buzz était extrêmement positif et qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient plutôt enthousiasmés par le film. Une fois le film sorti, ça a été un petit peu la déconvenue. Au-delà des problèmes et des controverses autour de Ezra Miller qu'on va laisser de côté, qu'on acknowledge, mais qu'on laisse de côté là pour les 5 minutes pendant lesquelles on va parler du film, j'ai l'impression que les retours ont été quand même assez mauvais. Je ne sais pas si tu peux me sortir un petit Metacritic ou Tomatometer de The Flash. Je vais essayer de le faire en même temps. The Flash, je ne le trouve pas. The Flash 2000... Non, je ne l'ai pas. Ah si, voilà. 56 ! Aïe. Oui, alors 56 sur Metacritic, effectivement, les retours sont très très mauvais. Franchement, moi, je l'ai trouvé... Je trouve que les gens sont assez injustes avec ce film. Et évidemment, sans spoiler, parce que tu ne l'as pas vu, je l'ai trouvé assez
sympa. Alors, moi, je m'en fiche. Hein, tu peux y aller. Hein.
Ouais, mais bon, on ne va pas spoiler parce que c'est pas, franchement, ça ne vaut pas la peine. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a même pas énormément à spoiler. Mais je l'ai trouvé plutôt sympathique. J'ai pas passé un mauvais moment du tout. Et je comprends pourquoi les gens sont déçus du film. Mais en même temps, je les trouve un peu durs avec ce film. Comme on le sait avec les promos, si vous n'avez même pas vu, même rien entendu sur le film, vous pouvez avancer de 5 minutes. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup d'éléments de multivers. Et c'est dur d'arriver non seulement après Across the Spider-Verse, qui traite le multivers très très bien, mais en plus, il traite le multivers de Flash après toute une série d'événements multiversaux dans l'univers Marvel, qu'il a tellement utilisé qu'on finit par ne plus en pouvoir, quoi. En plus de peut-être la lassitude des films de super-héros tout court, le fait que les films de super-héros sont moins bien, franchement moins bien, ces dernières années que pendant les 10 premières, The Flash, en fait, il fait un petit peu tout ce qu'on a vu dans les films de super-héros ces 15 dernières années, correctement, sympathiquement, mais avec en plus des éléments scénaristiques qui sont vus, mâchés, remâchés ces 4 ou 5 dernières années, quand on commence à en avoir marre. Donc, il a un petit peu... il partait pas gagnant, quoi, à la base. Malgré ça, moi, je trouve que c'est un film qui a des éléments plutôt réussis. La manière dont... le personnage principal, enfin, ce qui lui arrive et la manière dont il le gère sont plutôt intéressants. Ça aurait pu être mieux écrit, mais c'est plutôt intéressant. Et puis, l'évolution du scénario est correcte. Disons que le truc qui me frappe beaucoup plus que tout le reste, c'est à quel point The Flash est un film Marvel du milieu de la phase 2. C'est incroyable à quel point ça a été... En gros, c'est à peu de choses près une copie calquée, non pas sur l'histoire, mais sur le ton et le type de réalisation de Avengers Age of Ultron. C'est pas mauvais, c'est sympathique, on rigole à plusieurs moments, mais c'est hyper comico-lolilol. Il y a des scènes d'action qui sont sympas mais qui vont pas, tu vas pas t'en souvenir jusqu'à la fin de tes jours. Il y a un scénario qui te fait un petit peu rouler des yeux par moment, et dans l'ensemble c'est autant un spectacle de super-héros qu'un spectacle qui veut te faire rire, qui arrive généralement, mais c'est un tel changement pour le DCEU. En tout cas, enfin, il y a eu des films qui étaient plutôt drôles, plutôt MCU-esque dans le DCEU, mais là, The Flash, c'est la Justice League, on a l'impression l'héritage de Zack Snyder, et sans aller jusqu'à refaire du sombre, comment dire, du Atlas Shrugged, tu vois, du méga déprimant et noir, ils auraient pu faire un truc un petit peu sérieux, quoi. Là, on est quasiment pas sérieux. Oui, un petit peu, mais c'est tellement drôle du début à la fin que le sérieux a du mal à avoir du poids. Et donc, passer du DCEU de Snyder à ça, moi, j'ai mal pour les fans de Snyder, quoi. Même si moi, j'aime pas ses films, c'est une telle trahison, je trouve, de ce qu'il avait... Je pense vraiment qu'il est possible de faire des films de super-héros hyper intéressant, en restant sérieux, en ayant un petit peu d'humour, mais en ayant des enjeux lourds, quoi. Et c'est... Moi, je trouve que ça c'était pas bien pris en main, mais c'est ce qu'essayait de faire Snyder, et ils auraient pu faire un truc dans ce ton-là. Là, pas du tout. C'est comique, on met le nez de clown, on fait des blagues ridicules du début à la fin. Donc, les gens qui adorent les films de Snyder, j'ai mal pour eux parce qu'ils doivent maintenant un petit peu, par fidélité fanboyesque, ils se doivent de défendre The Flash, alors que c'est tout ce qu'ils critiquaient de Marvel par opposition au film de Snyder qu'ils défendaient. Tu vois, c'était un petit peu une posture obligatoire. Mmh. Quand tu aimes Snyder, c'est genre, ah, voilà, nous, on est sérieux, on ne fait pas les clowns comme dans Marvel. Et bien, The Flash, c'est pile Marvel. Et comme The Flash a été un petit peu monté en épingle comme le film qui va conclure le Snyderverse, qui va amener vraiment la manière de faire le multivers bien dans le DCU, machin, tu vois, il y a des gens, j'ai l'impression, qui se font un devoir de l'aimer, et c'est très bien qu'ils l'aiment. Mais c'est tellement tout ce qu'il critiquait ces 10 ou 15 dernières années, le retournement de veste et le comment dire, la manière dont on doit se convaincre de sa vérité est assez flagrant, quoi. Il est impossible de trouver que The Flash est sympa ou bien ou intéressant et ne pas applaudir la formule Marvel des 10 premières années. Je ne parle pas des 5 dernières où la phase 4 nous a tous déçus, mais les 10 premières, on est exactement sur cette formule. Donc bon...
Ouais, alors moi, j'ai une faille à exploiter, hein, si jamais les fans du DCU nous écoutent et qui veulent rationaliser ça. On peut dire aussi que, bah, finalement, si on considère ces films-là... comme faisant partie d'une série, qui est un épisode un peu plus léger de temps en temps, ça permet de, voilà, de garder une formule globale plus équilibrée, quoi.
Ah non, mais c'est
alors
pas un épisode
Marvel,
plus
c'est
léger.
C'est vrai que ces derniers temps... Yoann, non, mais ce que je veux dire, c'est que Marvel, c'est pas un... il y avait un truc un peu systématique, quoi, tu vois. Et je comprends que si jamais ça peut t'agacer un petit peu sur le systématisme, bah, à la fin, t'en as un peu ras-le-bol. Là, si t'intègres ça dans un truc un peu plus, voilà, gritty comme le DCU, avoir un épisode comme ça au milieu, ça peut voilà, faire partie d'un équilibre à une formule globale, quoi. Voilà, c'est... je donne juste des arguments. Hein, pour...
Franchement, non. C'est pas juste « Ah, celui-là, on va faire un truc un petit peu... » C'est un doigt d'honneur à Zack Snyder. Vraiment. Hein. Vraiment. C'est difficile à décrire sans donner des spoilers, mais tu me diras ce que t'en auras pensé si tu le vois un jour en streaming, parce que je crois que tu veux pas aller le voir au ciné. Mm-hmm. Mais c'est vraiment, c'est plus que ça. C'est un... On a vraiment... deux écoles différentes qui s'opposaient entre le MCU et le DCU sur les 10 premières années des deux univers. Et là, c'est un film qui dit... C'est pas juste parce que tu vois, des films plus légers, il y en a eu. Il y en a eu qui étaient même plutôt sympas. Je trouve que Wonder Woman, il est plus léger, tu vois, que les films de Snyder, et ça fonctionne. Oui. Le Aquaman... il est pas mal, franchement. Moi, je l'avais bien aimé, et il est plus léger. Mais ça reste cohérent avec l'univers du DCU. Là, tu m'aurais dit, c'est un film de Marvel. Tu vois, Flash, en fait, c'est un personnage de l'univers Marvel qui est dans le MCU. Complètement cohérent. Et pas genre, c'est l'un des films sérieux du MCU. C'est un film, je dis... bah, moi, j'ai beaucoup d'amour pour les films, l'humour de Joss Whedon. Mais on est complètement là-dedans, c'est Joss Whedon, et même pas Joss Whedon de Justice League, Joss Whedon de Buffy, que c'est pour ça que je le compare à Age of Ultron. Enfin bref, je comprends ce que tu veux dire, mais là ça va tellement loin, c'est tellement une copie identique de Marvel, que c'est pas on se dit on va faire un épisode plus comique dans notre série, c'est on va copier ce que faisait Marvel il y a 10 ans. Donc bref, voilà pour The Flash. Encore une fois, moi, j'ai pas du tout passé un mauvais moment. Je trouve que les critiques sont hyper dures avec ce film, pour des raisons qui, malheureusement, n'ont pas directement à voir avec le film, pour le multivers, pour le fait que c'est une formule qui est passée de mode, pour tout ça. Mais moi, franchement, je l'ai vu, je l'ai trouvé sympathique, Et c'est sans doute l'un des films que j'ai le moins détesté des films du DCEU. Je dis comme ça par provocation. Mais franchement, je l'ai trouvé... Moi, je lui donnerais pas... Il a 56 sur Metacritic. Moi, je lui donnerais un bon petit, je sais pas, 6,5 sur 10, tu vois. 6 ou 6,5.
Ouais, il est à... Sur Rotten Tomatoes, il est à 64. Fraîche.
Bah voilà. Voilà, exactement.
Globalement, c'est, ouais, c'est au-dessus de la moyenne, c'est positif.
C'est ça.
Moi, alors, tu vois, c'est un film qui m'intriguait un peu parce que, avec les bandes annonces, que j'avais compris de ce qu'allait être le film, pour moi, ça serait bon. Ça a l'air effectivement d'être un peu loufoque et je suis assez certain en fait que je vais passer un moment diverti devant. J'ai failli aller le voir. Voilà, effectivement, il y a un truc. Il y a un truc un petit peu magnétique pour moi là-dedans, déjà parce que c'est la fin du DCU et du coup je veux voir la fin du crash, je veux voir la fin de l'accident quoi, et puis après repartir sur de bons auspices. Donc il y a plusieurs choses qui m'attiraient, c'était déjà à la fois la question, alors que j'ai pas cherché la réponse, je la chercherai peut-être avant d'aller le voir, mais de savoir si est-ce qu'ils utilisent ce pouvoir-là de changer les choses, etc., pour kickstart le reste. Est-ce qu'il y a un vrai flashpoint, finalement, dans le film, qui fait que ça justifie le changement drastique qu'il va y avoir avec le reboot, finalement, du DCU. Donc ça, c'était une curiosité quoi, que j'avais. Et puis l'autre chose, bah, c'était juste de m'amuser avec les emprunts aux différents persos, aux différents univers, aux différentes époques qui semblent explorer dans le film. Quoi. Et j'ai l'impression que cette partie-là... moi, j'avais peur que ça soit vraiment la fête aux caméos, machin, etc. Mais de ce que j'ai compris, y compris parfois de critiques un peu dures, c'est que finalement, les caméos, ils font plus qu'être des caméos. Ils sont là, actifs dans l'histoire et ils ont leur... ils ont un vrai chapitre et que c'est pas forcément tout le temps vain comme peuvent l'être des caméos dans d'autres œuvres. Quoi.
Bah écoute... Le jour où tu le verras, on se fera un mini spoiler discussion et on pourra parler de
tout
ça.
Du cinéma, là. Début juillet, là, pendant 4 jours, les places sont à 5€ partout en France. Donc, en plus, j'ai pas ma fille, donc c'est pas impossible que je le vois dans les jours.
C'est le juste prix pour voir The Flash pour toi. Ouais. Très bien. Donc, maintenant, on passe au main event, au main course de notre podcast. On va parler de... Spider-Man Across the Spider-Verse, la suite de Spider-Man... comment il s'appelait déjà ? Into the Spider-Verse.
Qui en français s'appelait...
New Generation, non ?
Spider-Man New Generation. Et celui-ci a failli s'appeler Spider-Man Seul contre tous.
D'accord. alors, partie sans spoiler. Bon, toi, tu l'as vu à peu près 14 fois. Donc, je vais peut-être te laisser nous dire... On va même pas parler de... Comment dire ? De l'histoire du scénario, même pas besoin. C'est la suite, donc, de Into the Spider-Verse, qui avait été un succès phénoménal avec la révolution du style graphique dont on a tous parlé en long, en large et en travers. Pas besoin... Enfin, vraiment, si vous écoutez cette émission, je pense qu'il n'y a aucun risque que vous n'ayez pas, au moins, que vous ne sachiez pas de quoi il s'agit, Into the Spider-Verse. Je dirais juste une chose, Into the Spider-Verse, je pense que c'est l'un des seuls films de super-héros, alors d'animation, hein, mais de super-héros, qui met tout le monde d'accord. On joue avec la rivalité entre MCU, DCU, souvent dans l'émission. Je crois que cette série, maintenant, puisqu'il y en a au moins deux, et qu'il y en a un troisième qui arrive, elle est adorée de tous. Et le danger de Across the Spider-Verse était grand parce qu'on a tellement aimé Into the Spider-Verse, il était tellement innovant, intéressant, que c'était compliqué de faire au minimum aussi bien, et faire mieux, ça semblait impossible. Donc, c'est pas ce qu'on lui demandait. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Alors, déjà, le premier film pour moi, c'est juste mon film préféré de super-héros de tous les temps. Sans, genre, il n'y a pas de match, quoi. Vraiment, le second, je ne saurais pas dire lequel c'est, mais il est loin derrière. C'était vraiment un truc choquant pour moi. J'étais vraiment sorti, vraiment en choc. Depuis, j'ai tout acheté. Hein. J'ai les DVD, les Blu-ray, j'ai les artworks. Vraiment, c'est un truc qui m'a fasciné. Et qui m'a fasciné pour plusieurs choses. J'adore l'animation, et côté animation, c'était vraiment une claque technique et artistique, avec voilà, une technique assez nouvelle côté animation, et puis aussi, bah, du coup, l'espèce de mimétisme du comics et du papier comics, et la réplication de cases, d'onomatopées, etc., qui, voilà, je crois que c'était grosso modo du jamais vu. Et puis aussi, bah, voilà, moi, des thématiques que je trouvais très très fortes et qui me parlaient à moi spécifiquement. Surtout que Miles, c'est aussi mon premier Spider-Man en fait, hein, en lecture comics. J'ai commencé par là avec Kamala. Donc voilà, donc c'était un film super important pour moi et j'étais très intimidé. Déjà à l'annonce, je me suis dit, Dieu, je fais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un 2, tu sais, ce genre de réflexion.
C'est ce qu'on se dit souvent quand on est un snobinard du 7e art, ou même du jeu vidéo, pas besoin. Et généralement, c'est pas besoin. C'est vrai si le second est raté. Le truc, c'est que. Pardon, je dis juste un truc sur ce point. Évidemment, chaque nouvel opus est une occasion de se planter et donc de souiller un petit peu l'ensemble de l'œuvre. Si c'est bien, ça peut, on l'a vu hein, à plusieurs reprises, on pense évidemment à The Last of Us qui n'appelait pas du tout une suite et dont la suite a plutôt élevé, ou en tout cas a réussi pour une grande partie des joueurs à tenir la ligne. Mais si tu vas sur cette philosophie, bah après, pourquoi pas un 3, un 4, un 5, et au bout d'un moment, tu vas finir par te planter, quoi. Donc, je comprends l'idée, même si moi, je suis toujours partant pour en avoir plus. Mais...
et bah, du coup, bah, moi, cette séance-là, ça a été à nouveau un choc, quoi. Je ne m'attendais pas à ce que ça puisse être. Encore mieux sur la technique visuelle. Je trouve que c'est encore un cran au-dessus et j'en reviens toujours pas.
Est-ce que tu as revu le premier bien. Après avoir vu le second
Après, non. Mais un jour et demi avant.
D'accord. Donc, la différence a été... la différence a été vraiment... Parce que moi, je n'ai pas vu le premier depuis. Je crois que je ne l'ai vu qu'une fois. Et donc, j'ai du mal... J'ai l'impression que le 2 a vraiment un step-up au niveau graphique. Mais je ne me souviens pas vraiment. C'est vraiment le cas, quoi. Ça n'a plus rien à voir.
Ouais, c'est en fait tout ce qui était impressionnant dans le premier film, ils l'ont démultiplié. Donc un des challenges techniques du film, ça avait été de faire interagir quatre personnages qui ont chacun un style d'animation à eux, avec des rythmes et des ce qu'ils appellent je sais plus comment ils appellent ça, mais un frame rate entre guillemets spécifique à chaque personnage et à son histoire, on va dire, de l'animation auquel correspond son style, etc. De les faire s'interagir entre eux ensemble sur les mêmes plans. C'était vraiment le gros challenge que les créateurs expliquent hein, dans différentes interviews ou même dans l'artbook. Et là du coup c'est plus 5, quoi. C'est 50. Et puis t'as des styles encore plus marqués, que ce soit même parfois des personnages principaux ou quelques plans assez incroyables. Donc ça, cette partie-là, ils l'ont démultipliée. Et puis ils ont par-dessus le marché, il y a des effets visuels dans tous les sens. Donc on sent que le budget n'a plus rien à voir, quoi. Et puis aussi le fait qu'ils sont probablement aussi gagnés en assurance sur la technique, parce que à l'époque c'était peut-être un petit peu, tu vois, une DA un peu tranchée sur un projet, voilà, d'animation. L'animation, c'est un peu compliqué côté budget parce que ça fait jamais les mêmes entrées, enfin jamais, ça arrive, hein, mais ça fait pas les mêmes résultats en général au box-office qu'un film live. Les gens vont plus voir des films live. Il y a, surtout aux États-Unis, moi c'est comme ça que je le ressens, une idée que l'animation, c'est plus pour les enfants. Donc déjà ça impose un certain budget pour une certaine thématique, c'est-à-dire que si tu fais une thématique adulte en animation, côté financement, tu n'auras pas la même chose que si tu essayes de faire Frozen 3, quoi. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que maintenant que le premier a fonctionné, il a eu son Oscar, Tu sens que bah, là, ça y est, c'est, les vannes sont ouvertes, ils ont mis le budget, donc il y a trois fois plus de tout ce qui était bien. Et il y a des DA encore plus tranchés, des partis pris qui sont assez hallucinants, et chaque personnage a son identité complète. C'est pas que. Parce que là, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dans le premier film, c'était des personnages qui rentraient dans le monde de Miles, et donc du coup, c'était eux qui étaient animés de cette manière-là dans le monde de Miles à interagir avec lui. Là, on voyage, on va vraiment dans plusieurs dimensions, et chaque dimension a une DA ultra tranché, ultra spécifique. Enfin, je veux dire qu'il a dû demander un développement incroyable pour parfois une séquence de quelques minutes. Enfin, c'est voilà. Moi, j'ai trouvé ça étourdissant.
Et est-ce que c'est pas trop?
En plus, eh ben justement, je pense qu'il y a une espèce de vraiment de ça fourmille de partout, ça bouge tout le temps, ça bouge très vite. Il y a des détails dans des coins de l'image, donc tu verras pas tout. Et je comprends tout à fait qu'on puisse se sentir un petit peu, je trouve pas mes termes, mais
non, ça donne le tournis, quoi. C'est
trop, voilà. C'est et moi, je le, c'est ça, c'est étourdissant. Et j'y fais un parallèle assez fort avec. L'autre film du multiverse, mon autre film préféré du multiverse, qui est Everything Always All at Once, dont le titre, le titre décrit parfaitement le sentiment que son film propose, mais aussi que Spider-Verse 2 là propose aussi. Et je pense que c'est la bonne approche quand tu veux justement montrer, essayer de faire comprendre la complexité et le foisonnement que peut proposer un multivers. Je pense que c'est un bon sentiment à provoquer. Après, 2 heures, c'est long. Et c'est vrai qu'à la fin, moi, j'étais rincé, en fait. J'étais rincé parce que c'est non-stop. Ça ne s'arrête jamais. Et il faut recoller les choses ensemble. Et moi, j'ai mis vraiment 2 jours à vraiment recoller ces morceaux-là, à vraiment comprendre visuellement ce qui m'était arrivé. Mais ça, je vis pas ça du tout comme un truc négatif. Je sais que certains, j'ai vu que certains, par contre, trouvaient vraiment ça trop et avaient un peu de mal avec ça. Moi, je trouve que c'est une intention, hein, de toute façon. Je pense que le sentiment provoqué est vraiment souhaité, comme pour Everything Always All at Once. Et moi, c'est un sentiment qui me parle, quoi. C'est un truc que j'ai aimé ressentir. Et donc, du coup, je suis retourné et ça n'a pas faibli, quoi.
Je te rejoins sur le fait que c'est effectivement beaucoup. T'as les yeux écarquillés. Au bout d'un moment, on a l'impression, tu sais, ça fait un petit peu Clockwork Orange, Orange Mécanique, où t'as les yeux, tu vois, tenus ouverts et on t'envoie des images dans la rétine. Mais oui, pour moi, ça fonctionne aussi. Et visuellement, le film est incroyable. Et on a une proposition qui est vraiment unique et réussie. Et effectivement, c'était pas évident de faire la même chose en plus. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est réussi, je trouve, effectivement. Je l'ai vu qu'une fois. Donc, c'est le genre de film où il faut laisser un petit peu reposer. Déjà, il faut le voir plusieurs fois pour bien comprendre. Et d'autre part, visuellement, je veux dire, je pense qu'il faut le laisser reposer quelques mois pour vraiment savoir si cette réussite est durable, en quelque sorte. Tu vois, il y a des films, parfois, tu dis « Oh, c'est fou, c'est incroyable !» Et puis, au bout d'un moment, tu te dis « Ouais, en fait, ils en font un peu beaucoup, quoi. » Et ça va trop loin et ça fait gimmick. Là, je pense pas que ça soit le cas, mais je ne donnerai pas de jugement définitif avant, on va dire, un an. Mais là, à ce stade, oui, j'ai très envie de le revoir. Et si je pouvais, j'y retournerais tout de suite, quoi.
Il y a un autre aspect qui est ultra impressionnant d'un point de vue technique et artistique dans ce film-là, c'est la place de la musique. On a l'habitude sur les grosses productions de plutôt avoir une musique qui vient s'apposer après coup sur un film. En général, le réalisateur a une idée d'un ton musical, il a des exemples de musique existante à mettre sur son montage, et après on dit au compositeur, voilà, c'est, voilà la scène et voilà le style de musique que j'ai écouté, voilà la musique que j'ai écoutée, est-ce qu'on peut avoir un truc un peu similaire sur les intentions, etc. Là, clairement, on a l'impression que la musique a été composée en même temps que les plans. C'est millimétré, façon, limite façon Edgar Wright, pour ceux qui connaissent un peu son cinéma, un peu à la Baby Driver, et surtout sur la première séquence d'action avec Spider-Gwen. Je recommande vraiment, si tu revois le film, de faire attention un peu à la musique et à l'entrechoquement de différents thèmes, parce que du coup chaque personnage a son thème. Et là, il va y avoir des personnages qui vont rentrer en jeu, etc. Il va y avoir un échange musical assez fou, qui donne un tout vraiment génial. Moi, j'ai un truc que j'ai réécouté 50 000 fois là, depuis quelques semaines. Et voilà. Donc vraiment, moi, pour moi, je pense que je continue à préparer, si tu veux, le premier film, parce que le premier film a une certaine pureté.
Tu préfères le premier quand même ?
Alors ouais parce que thématiquement je suis plus dans le premier, quoi. Je m'y retrouve vraiment personnellement dans le premier, donc ça me touche vraiment un peu profondément. Donc voilà, côté technique je préfère évidemment le deuxième, mais en tant que film, si tu veux, je préfère le premier, d'autant que ça, je pense qu'on peut le dire, hein, c'est que clairement ce deuxième film, c'est une partie 1, c'est, je veux dire, l'arc n'est pas terminé. Donc il y a un peu aussi un sentiment de, d'incomplet, quoi. On a mis pause et on reverra la suite quand il sortira. Donc il y a des choses qui se résolvent, il y a des arcs qui se terminent, mais ce sont les arcs secondaires. L'arc principal ne se termine pas, quoi.
Bah écoute, je pense qu'on peut passer à la partie avec spoiler. Ce qui est clair, c'est qu'on l'a beaucoup aimé. Non, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, j'ai tout dit, je pense.
Très bien, donc beaucoup, beaucoup aimé pour nous deux, et encore une fois, il fait, je crois, l'unanimité aussi, et je crois que l'unanimité, c'est qu'il réussit, alors je ne sais pas si on peut dire qu'il est meilleur ou moins bon, enfin, meilleur ou aussi bon, ou je ne sais pas quoi, que le premier, mais je me demande si le sentiment général, c'est « Ouah, ils ont fait plus fort, quoi ». Meilleur, je ne sais pas, mais encore plus fort, qui fonctionne, pas juste encore plus fort, et donc ça donne mal à la tête, mais encore plus fort, qui fonctionne, c'est un petit peu l'avis général, j'ai l'impression. Donc, très très grosse réussite, sur Metacritic, on est à 86, je crois, ce qui est excellent dans le cinéma. Donc, maintenant, petite partie spoiler, donc n'écoutez pas si vous ne l'avez pas vu, ça serait dommage de se gâcher se gâcher les détails. Donc maintenant, voilà, spoiler, c'est la partie spoiler. Je dois dire que j'ai adoré l'intro. Moi, j'avais pas vu de trailer du tout, ni le premier ni le deuxième, et le deuxième gâche absolument tout. Tous les enjeux du film, c'est vraiment... Généralement, je suis anti-spoiler par principe, parce que je veux pas les... Enfin, anti-trailer pour éviter les spoilers, mais là, c'est vraiment juste... il te raconte tout le film, quoi. J'exagère, mais à peine.
Il raconte tout le film, ouais.
Ouais. C'est vraiment dommage. Mais du coup, j'ai pas vu de trailer du tout, mais même dans les trailers, ils parlent pas de cette... ils montrent pas cette intro, et limite, j'aurais aimé avoir tout le film... sur Spider-Gwen, même si j'aime beaucoup Miles Morales. Et cette intro commence hyper fort et j'étais accroché tout de suite dès le début. Et cette partie, j'ai adoré, quoi. Pardon, tu voulais dire quelque chose ?
Ouais, alors, mais complètement. Déjà, on découvre son univers à elle, avec cette espèce de truc un peu pastel, là, et puis qui reflète les émotions. Donc, en fonction des émotions qui sont mises dans la scène, t'as des couleurs qui apparaissent. Entre le bleu, le rose, je trouve que juste l'univers déjà de chez elle là, est vraiment sublime. Le style graphique qu'ils ont utilisé, vraiment j'ai hâte. Alors il y a un spin-off avec elle qui est prévu.
Ah oui, je savais pas.
Ce niveau-là, oh mon dieu, quoi.
D'accord.
Et puis la scène d'action, elle est juste incroyable, quoi. C'est la meilleure scène d'action, je pense, des deux films réunis, avec ce combat contre... enfin, je veux dire, ce personnage super le étonnant, vautour, là, le faucon, le Da Vinci vautour, là.
Le vautour Da Vinci,
qui a un style, bah, pour le coup, parchemin, là, ultra, ultra tranché. Et puis voilà, tout le jeu de ce qu'on appelle, on dit en anglais, web slinging, là. Je sais pas comment on traduirait ça en français, la balade avec dans la toile. Les prouesses, on va dire, olympiques que fait Gwen et tout, c'est vraiment superbe, quoi. C'est sublime. Je pense que je serais capable juste de me, tu sais, si j'avais un DVD de cette intro, enfin un Blu-ray de cette intro, je me le regarderais régulièrement, juste ce morceau là, quoi.
Ouais. Non, mais en plus, c'est une intro, ça dure 20 minutes, hein. C'est vraiment un gros, je me souviens plus exactement, mais j'ai l'impression que c'est une vingtaine de minutes,
oui, c'est très gros.
Ouais, donc c'est vraiment... Et puis du coup, moi, je suis rentré dedans, et quand on revient chez Miles, j'étais presque déçu, quoi, parce que je voulais continuer cette histoire. Heureusement, évidemment, elle arrive au bout d'un moment. Mais je suis content d'apprendre qu'il y a un spin-off. Là encore, on va se dire, ça va être difficile de garder le niveau.
Oh. Oui.
Pardon, nuit courte. Mais oui, j'ai l'impression que Sony est en train de... comment on dit, milquer cet univers à fond. Et autant ils n'y arrivent pas avec le Spider-Man, l'univers de Spider-Man en film, autant là, oui, ils ont... Enfin, Marvel ne va jamais récupérer les droits de Spider-Man de chez Sony. Jamais de la vie, quoi. Ça ne se passera pas. Il va falloir qu'ils rachètent Sony pour pouvoir récupérer ces droits-là. mais oui, donc, on revient chez Miles et on développe donc l'histoire de Miles, qui pour le coup a mis un petit moment à me regagner après l'envie de rester avec Gwen, mais ça fonctionne aussi et ça calme un tout petit peu. On a un petit moment de calme quand on revient chez Miles et c'est relativement bienvenu. Et je dois dire que j'ai été assez content de voir la tâche qui est le méchant du film, parce que on lit des histoires de Marvel avec mon fils, il y a les petites histoires de super-héros et il y a la tâche qui intervient à un moment. C'est pour ça que je le connaissais, la tâche, en fait je le connaissais pas du tout des comics. C'est un personnage hyper mineur, et il est dans ces petites histoires de 5 minutes avant de dormir, à un moment il y a la tâche qui apparaît. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant la manière dont ils ont présenté le personnage de la tâche, qui est de Spot en anglais, hein, ça n'a pas la même connotation en anglais, mais qui en français, enfin, c'est clairement une tâche, quoi. Ça, c'est une merde, il a des pouvoirs de créer des portails, machin, mais c'est pas hyper intéressant. Et là, le fait de le recycler en personnage lié à Miles, qui en plus va provoquer la déstabilisation du multivers, est tellement malin. Et oui, ça correspond scientifiquement, c'est assez rigoureux, tu vois, tu fais des portails, donc forcément, portail multivers, machin, oui, ça marche, très bien. J'ai trouvé ça assez malin, donc ça m'a assez plu. Et puis, enfin, j'avance, mais le fait que tout à coup, il s'assoit, heureusement qu'ils ne l'ont pas appelé seul contre tous, parce que c'est spoiler, méga spoiler, en même temps, c'est dans le deuxième trailer, donc oui. Voilà. Mais le fait que ça soit... l'enjeu du film et l'idée qu'il y a ces événements qui découlent du fait qu'on a plusieurs versions des personnages dans les comics et que par nécessité mercantile, les gens sont attachés à certains moments de l'histoire des personnages et donc tu les reproduis même si c'est des personnages alternatifs et là ça devient les moments canons de l'histoire des trucs et ça développe une idée, philosophiquement intéressante de est-ce qu'on est construit par nos tragédies et si on n'a pas les tragédies, est-ce qu'on est toujours soi et donc est-ce qu'il faut essayer d'arrêter les tragédies ou pas. Et oui, finalement, il faudrait, mais mal s'y oppose. Enfin, c'est vraiment intéressant comme enjeu au niveau personnel, au niveau philosophique. Ça fonctionne à tous les niveaux, quoi. Je trouve que c'est ça qui fait la différence entre un film... de super-héros ou d'animation qui est sympa, bien exécuté, machin, et un film qui vraiment rentre dans ton corps parce que même si là, c'est relativement léger, hein, mais ça, c'est parce qu'il y a cette architecture qui soutient le tout, qui fait que ça peut tenir debout, quoi. Donc, moi, j'ai été séduit par ça aussi.
Ouais, non, complètement. Et tu sens qu'effectivement, il y a une thématique et que bah, il y a des gens qui se sont vraiment creusé les méninges pour qu'est-ce que cette thématique implique, que ce soit d'un point de vue de l'univers, mais aussi de ce que peuvent en faire alors, chaque personnage, comment chaque personnage va s'approprier cette thématique-là ou être concerné par cette thématique-là. Et effectivement, tous les personnages ont quelque chose voilà, à voir avec les choix, les choix, leurs conséquences, et aussi sur le fait de qu'est-ce que c'est être Spider-Man. Est-ce que Spider-Man, c'est être une succession d'événements, ou est-ce que c'est un état d'esprit et une volonté de bien faire? Donc il y a pas mal de choses qui s'entrechoquent au milieu de ça. Et ouais, le jeu des ce qu'ils appellent les canon events, je sais plus comment c'est en français, parce que j'avais les sous-titres,
c'est pas les événements Canva ou un truc du genre.
Ah, Canva, c'est ça. C'est ça, c'est les événements Canva. Et je alors moi je soupçonne que dans la suite ce concept de Canva va être remis en question. Parce que il y a des choses qui se sont passées dans ce film-là qui laissent quand même penser que peut-être c'est pas ce qu'on croit. On va voir où le fil nous mène, quoi. Mais ouais, c'est super bien. Et puis c'était l'occasion aussi de montrer, notamment dans les quand ils montrent les différents canon events, de remontrer les Spider-Man en film. Je trouve que Sony abuse un peu parce que j'espère qu'on verra jamais les Venom et Morbius dans Spider-Verse 3.
N'allez pas souiller. je suis assez d'accord. Ils poussent un petit peu. J'ai bien aimé par contre le fait qu'on voit comment il s'appelle,
Clover,
ouais. J'ai trouvé ça marrant parce qu'il est dans l'univers du MCU et il était... En fait, pour ceux qui ne savent pas, tu me diras si je me trompe, mais Donald Glover avait dit en fait au début de sa carrière qu'il aimerait jouer Spider-Man à une époque où Miles Morales n'existait pas encore. Et du coup, il a été l'une des inspirations pour créer Miles Morales. Donc, c'était évidemment déjà assez cool de le voir dans Spider-Man, le premier du MCU. Et c'est marrant de le voir ici en tant que Prowler. C'était un clin d'œil sympathique. C'est vrai qu'ils appuient un petit peu beaucoup sur le truc, mais moi, je trouve que ça fonctionne.
Le truc, c'est qu'effectivement, quand il est apparu dans le MCU... Et qui dit qu'il a un neveu, qu'il a un neveu, quoi. Donc, moi, je faisais partie des gens qui espéraient quand même rapidement voir Miles Morales dans la MCU, et donc, effectivement, Donald Glover en Prowler, et ce n'est jamais arrivé, et pour lui en Prowler, je pense que maintenant, c'est trop tard, de toute façon. Côté MCU, clairement passé sur autre chose.
Oh non, pourquoi ?
Je sais pas.
Ça pourrait, hein. Peut-être que ça va pas se produire, mais ça pourrait complètement.
Mais du coup, je le vois presque justement comme une tentative de Sony aussi de dire au MCU, regardez, les gens ils sont super contents d'avoir vu Donald Glover en Prowler. Il faut ramener Prowler dans le MCU.
Ouais, ouais.
Donnez-nous de l'argent pour qu'on vous laisse faire ça. Voilà, je vois un peu ça, tu sais.
Moi, je pense que, tu sais, s'ils continuent à faire des Spider-Man, et a priori ça sera le cas, enfin Spider-Man dans le MCU, c'est pas le fait d'avoir Danny Glover en Prowler qui va faire dérailler les négociations, tu sais. C'est pas genre tout à coup Sony qui va dire comment vous voulez Donald Glover, mais il faut nous rajouter 70 millions d'euros pour avoir le personnage. Jamais de la vie, tu vois. C'est
ouais.
Mais ouais, il y a un autre aspect. Je sais pas si tu veux sauter à la fin déjà ou l'aspect, ça s'arrête, que tu as évoqué dans la partie sans spoiler. Moi, j'aurais tendance à dire que c'était un spoiler, même si on sait qu'il y a une partie 3 qui arrive. Je savais, quelqu'un m'avait dit, enfin j'avais entendu le fait que ça s'arrête vraiment en plein milieu de l'action, et malgré ça, je ne l'ai pas vu venir. Genre j'étais à 10 minutes de la fin, je savais que c'était à 10 minutes de la fin, et parce que c'est pas qu'il s'arrête en plein milieu d'un truc, c'est qu'il commence en fait, il y a presque l'introduction du 3, et il s'arrête après l'introduction du 3 quasiment. Parce que quand il revient dans son univers, d'une part, c'est tellement intelligent la manière... Enfin, c'est dur de faire des surprises et des Kaiser Soze et des I See Dead People aujourd'hui. C'est vraiment dur de faire des trucs comme ça. D'autant plus quand c'est des trucs qui ont été téléphonés avant, qui ont été foreshadowés avant ou qui ont été expliqués avant. Et là, ils y arrivent parfaitement bien. Et quand tu t'en... Je ne sais pas si toi, tu l'avais vu venir, mais quand tu le comprends, tu dis « Mais oui, mais bien sûr !» Enfin, évidemment, ils nous l'ont dit, là, le truc de l'ADN, et c'est par l'ADN qui t'envoie dans un univers, et donc l'araignée qui n'était pas dans... Tout s'emboîte, quoi.
En fait, ce qui est dur, c'est que c'est un truc qui est devinable. C'est-à-dire que si tu revois le premier film, et celui-là, et que tu, et, tu fais pause, et tu dis « Ok, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ?» tu vois, tu vas réfléchir, tu vas dire « Mais oui, ils vont faire ça. » Mais quand t'es dans le film...
Mais tous les meilleurs sont devinables, et que le film, dans tous ces trucs.
Le film te laisse pas le temps, en fait. Le film te laisse pas le temps de réfléchir. Mais une fois que ça arrive, c'est évident. C'est même pas un truc où tu te dis... Attends, mais non, je vais revoir, je vais regarder. Ils ont dû, il y a dû avoir un plot hole. Il n'y a pas de raison que ça arrive comme ça. Non, non, c'est évident. Quand ça arrive, c'est évident. Et oui, non, moi je l'ai pas vu venir du tout. C'était, tu sens qu'il y a un truc louche, quoi. Quand il y a rien, machin et tout. Mais tu mets pas le doigt dessus. Et ouais, et quand ça arrive, moi j'étais, c'est incroyable. Parce que du coup, en plus, t'as tout un jeu d'action, ça c'est un peu classique, mais avec d'autres personnages qui, eux, sont au bon endroit. Et du coup, t'as vraiment l'impression d'une course-poursuite, en fait.
C'est
un truc un peu classique, hein. C'est un truc un peu classique quand t'as des jeux entre différents mondes, c'est un truc qu'on a déjà vu ailleurs. Mais
il arrive, il frappe à la porte, l'autre se lève pour ouvrir la porte, et quand il ouvre la porte, c'est quelqu'un d'autre derrière, c'est super classique.
Voilà.
Le seul truc que je dirais, c'est la mère de Miles. Elle n'est pas du tout choquée que son fils ait complètement changé d'apparence. Il n'a plus les tresses, tu sais, il n'a plus les... Mais bon, ok, c'est pas très grave. Enfin, elle lui dit, mais... t'as changé tes cheveux. Et... Ok, c'est pas très grave, c'est pas très grave.
Si on si t'enlèves les tresses, ça fait ses cheveux-là, je pense. Hein.
Pardon c'est juste si t'enlèves les tresses. Il les enlève régulièrement et tout. Je sais pas, j'ai l'impression que le Miles de cet univers, c'est vraiment le bad boy et qu'il agirait différemment avec sa mère et que son identité...
C'est plutôt sa mère qui devrait trouver bizarre sa façon d'agir.
C'est ça. Que les cheveux, en plus de tout le reste, ça serait genre... Mais ça se trouve, il fait le coup...
Tu sais, Patrick, à l'adolescence, on se cherche son identité, du coup.
Non, mais c'est ça. Ça se trouve, il fait le fier, il fait le fou quand il est avec son oncle et il fait le bad boy. Mais quand il est avec sa maman, il est là « Ah, oh, bonjour, maman !» C'est possible, hein, tout à fait. Donc, on ne sait pas. Mais oui, donc ce retournement, je ne l'ai pas du tout vu venir... et puis du coup, le fait que ça s'arrête juste après, en sachant que ça allait s'arrêter, le fait que ça s'arrête à ce moment, je m'étais vraiment dit, mais comment ils osent s'arrêter juste maintenant ? Et je sais que le suivant est censé arriver genre dans moins d'un an, mais on commence déjà à avoir des retours de gens qui disent « Non, mais jamais de la vie, jamais il sera prêt dans moins d'un an, c'est juste pas possible. » Tu sais, d'animateurs qui disent « On n'a même pas commencé à bosser avant que l'autre soit sorti, donc...
Ouais, c'est ça. J'aimerais juste revenir aussi un petit peu sur les compagnons, les personnages un peu compagnons de ce film-là. C'est un truc que j'avais pas trop aimé en fait dans le premier film. C'est à part les quatre persos, à part Gwen et puis le Spider-Man un peu loser là, les autres étaient assez surface. C'est-à-dire que t'as Spider-Man noir là qui est un peu dans son coin, qui fait ses trucs de super dark de détective noir, etc. T'as le cochon cartoon loufoque qui sort des gros marteaux de nulle part, etc. Mais ils sont pas plus caractérisés que ce que je viens de dire en fait, tu vois. Et là, on a le Spider-Man India. On a Hobby, le Spider-Punk, qui, je trouve, eux, ont tellement plus de profondeur et t'as tellement plus envie de les voir dans un truc à eux. Enfin, mmh. Moi, j'ai trouvé chaque personnage, mon Dieu, j'ai envie de lire des trucs sur eux, j'ai envie de voir des films sur eux. Spécifiquement, bah ouais, Spider-Man India que j'ai trouvé vraiment vraiment cool, et puis même le du coup son univers visuel, je trouve ça génial. Et puis ouais, et puis Hobby du coup le Spider-Punk que je trouve très osé, cette histoire de collage. Je pense qu'il y a des gens qui ont pas forcément dû adorer, mais moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et puis voilà, avec une personnalité. D'ailleurs, moi il y a un truc que j'ai découvert hier que je savais pas du tout, c'est l'acteur qui joue du coup Spider-Punk. Je sais pas si tu sais qui c'est.
Sid Vicious.
C'est Daniel Kaluuya, l'acteur fétiche de. Attends, j'ai oublié. Celui qui joue dans Get Out et dans Nope. Tu sais.
Oui, tout à fait, oui. Je vois ce que tu veux dire.
Ouais.
D'accord.
Et en fait, je ne l'avais pas du tout reconnu à la voix parce que je ne savais pas du tout qu'il était, British. Il est anglais. Et donc, avec son accent british qui doit ranger quand il fait des films américains, je ne l'avais pas reconnu. Mais du coup, voilà, je trouve que tous ces personnages-là ont un potentiel limite solo que je trouve incroyable. Chose que je n'avais pas du tout senti sur les personnages un peu secondaires quoi, du premier film. Et je suis super content parce que pour moi c'était des gens de passage quoi. Ils ont chacun finalement une espèce d'arc à l'intérieur du film et puis c'est un peu fini. Mais là du coup on sait maintenant qu'ils seront tous là pour aider Miles dans la suite. Ouais. Quoi. Et donc effectivement j'ai hâte. Quand je suis sorti du film je me suis dit de toute façon je sais parce que moi je suis les news que le film sort en mars prochain et que du coup c'est dans pas si longtemps. Et puis trois jours après les animateurs qui se tout doux là. On a fait trois croquis, calmez-vous. donc voilà.
Ouais. Je suis, pour revenir sur les personnages, je suis aussi d'une part assez content qu'ils aient pas gardé les mêmes, qu'ils n'étaient pas obligés de refaire en fait la même dynamique, les mêmes films, les mêmes blagues. Et effectivement, ils auraient pu les creuser, hein, mais c'était un petit peu. Je ne sais pas s'il est très facile de creuser Spider-Pig. C'est possible, hein, tout est possible. On a bien eu un film avec un raton laveur qui nous a fait pleurer, donc pourquoi pas. Mais je suis assez content qu'ils aient repensé. Les personnages secondaires. Je trouve effectivement Spider-Punk hyper réussi. Et c'est pas évident parce que l'anticapitaliste de base, généralement, moi, c'est pas trop mon truc, tu vois. Je rentre pas vraiment dans le trip. Mais là, d'une part, il y a l'esthétique punk qui justifie complètement le truc, il va dans un excès qui est assumé. Et puis, il y a surtout ce moment qu'il est difficile de ne pas approuver, où il dit « Ok, bon, moi, je me barre. Je ne cautionne pas. Ça, c'est pas pour moi, ces conneries. Là, vous allez trop loin. »
C'est ça que j'ai trouvé cool, c'est que il est fidèle à ses principes quoi. C'est-à-dire il est pas les auteurs l'ont pas mis en mode parodie de d'anticapitalisme primaire qui dit fuck à tout mais qui est là pour un peu pour faire marrer sur ça quoi. Finalement ses aspirations à lui font que bah du coup limite t'as l'impression qu'il était là pour un peu surveiller, tu vois, il est a l'air quand même de toiser assez régulièrement le Spider-Man, O'Hara, là. Et du coup, effectivement, non seulement il se casse, mais en plus, du coup, tous les petits trucs qu'il a volés, tu sais, les trucs qui démontent des trucs dans la Spider Society, volent des trucs, lui sert à fabriquer quoi, sa propre monde dimensionnel, machin.
Ouais.
Donc, il y a quand même un truc, une espèce de cohérence au-delà de, justement, cet anticapitalisme primaire. Mais du coup, effectivement, ça sert à la fois à l'intrigue et puis ça reste un personnage cohérent et j'espère vraiment qu'on le reverra parce que ça, pour moi, c'est vraiment un des highlights du film, quoi.
Ouais, j'espère aussi qu'on le reverra. Je me demande s'il n'est pas possible de faire d'autres choses encore. Encore que ils ont un petit peu utilisé tous les Spider-Man connus là, quand même. Il y a même Ben Reilly, enfin il y a tout le monde. Mais
d'ailleurs, on compatit avec les fans de Ben Reilly, hein, parce que
il est un peu traité.
Ils en ont fait dans celui-là, c'est un petit...
les destins tragiques et les prises de tête philosophiques avec Ben Reilly, il y aurait de quoi faire. On va pas se lancer là-dedans, mais pour revenir sur Spider-Punk, je trouve que ça va encore plus loin que ce que tu disais justement. C'est que tout l'aspect anticapitaliste et punk, qui est, enfin, il n'y a pas plus gros anticapitaliste que le mouvement punk, quoi.
Et antifa, hein, on peut le dire aussi.
Aussi, mais c'est traité justement avec ce petit ton d'humour, genre haha, oui, oh, c'est marrant, on est des punks, donc on déteste tout et donc on critique tout, et tu vois qu'il va tellement loin que ça en devient un petit peu ridicule, comme ça peut parfois être le cas, en particulier avec les punks où ils rejetaient tellement tout que bon. Mais quand ça devient sérieux, lui aussi redevient sérieux, et il a effectivement... Mmh. C'est même plus une question de ligne directrice, c'est une question de là, je dis stop. Tu vois, c'est que même s'il n'avait pas tous ces principes qui sont presque présentés comme des gadgets pendant la jusqu'à ce moment-là, eh ben il se dit non. Alors maintenant, il y a un jugement de valeur éthique que je fais, et là je dis non. Et ça aussi, c'est traité de manière presque différente, et donc je trouve que ça a encore plus de poids dans son... dans son arc et dans sa philosophie et dans son
ouais, comment dire. Finalement, une des caractéristiques de Spider-Man et des Spider-Man, c'est aussi leur côté un petit peu humour et légèreté avec lequel ils traitent le monde qui les entoure pour désamorcer quelque chose, quoi. Mmh. Et effectivement, ils ont gardé ça pour lui autour de la notion de parodie, caricature de punk. Mais effectivement, ouais, quand ça devient sérieux, finis de rigoler, et effectivement, il y a un truc assez fort qui se joue à ce moment-là, quoi. Ouais.
Et du coup, lui, je le trouve effectivement hyper poussé. L'Indien, hindou, je ne sais pas s'il est hindou, mais en tout cas, il est indien, Spider-Man indien, pour le coup, il est moins, j'ai l'impression qu'il est moins travaillé que ça, tu vois, c'est graphiquement hyper intéressant et tout ça.
Ouais.
Mais t'es d'accord que, alors oui, évidemment, c'est plus que Spider-Pig ou Spider-Noir ou dans le premier, mais c'est pas aussi impactant que...
Pas autant que Hobby, ouais. Mais oui, effectivement, c'est effectivement son univers qui est quand même assez chiadé. Mm. Et puis, c'est plutôt sa... C'est sa personnalité de déplacement, enfin, la façon dont il se déplace dans dans un univers, son style, sa stature, etc. Ouais. Et ben, du coup, là, pour le coup, un humour complètement Spider-Man en toute occasion.
J'ai bien aimé qu'il soit le beau-fils parfait aussi. Tu sais que tout lui
ouais,
aussi,
c'est
justement surprenant.
C'est beau cheveux.
Ouais. C'est pas mal.
Et puis... La fameuse blague du Chaiti et du
Tu sais que quelques jours après, je ne sais plus pourquoi, ma femme disait aux enfants, on dit naan bröd. On ne dit pas du pain naan en français, mais en suédois, on dit du naan bröd, qui est naan bread. En français, tu dis un naan, tu ne dis pas un pain naan. Parce que je sais bien que naan, ça veut dire pain, donc ça serait ridicule. mais tu sais, ça me parle un petit peu parce que c'est aussi un truc qui m'énerve en japonais quand les gens disent « Et donc, je parle à machin-san », et encore pire quand les gens disent « Monsieur machin-san », c'est terrible, mais déjà, dire « machin-san » en français, je trouve que ça fait un petit peu « Ah, regarde, je parle un peu japonais ». Non, tu dis « Monsieur machin-san », ça veut dire « Monsieur », tu peux le dire en français. Bref, peu importe. Mais du coup, quelques jours après, ma femme dit aux enfants « Ah, tu voulais du naan bread ?» Et moi, j'ai failli lui dire, mais enfin, naan, ça veut dire pain, tu ne peux pas dire. J'ai remonté mes lunettes en disant, actually, naan, ça veut dire. Bon, donc il m'a appris quelque chose, ce film. Je crois que c'est l'essentiel. Enfin, on n'a pas plus parlé que ça de Gwen, mais elle est vraiment un supporting act formidable. Et son dilemme est complètement compréhensible et vraiment difficile, et du coup le fait qu'elle choisisse finalement de venir aider et tout ça, enfin tout ça fonctionne hyper bien. J'ai beaucoup aimé l'introduction de Mayday aussi, qui est juste une petite blagounette, quoi, mais c'est marrant, ça fonctionne. Le fait qu'il y ait une femme enceinte badass avec qui donne des coups de moto, évidemment, oui, c'est cool. Le fait que ce soit le papa qui s'occupe de la petite fille dans son porte-bébé, c'est cool aussi. C'est juste en passant, mais c'est cool. J'ai l'impression qu'il y a, peut-être en conclusion, à moins que tu veuilles ajouter d'autres choses, À part peut-être
dire,
la frustration de la fin.
Au fait qu'il existe deux montages différents du film en salle.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Mais différence mineure, je trouve ça absolument génial.
C'est alors, cool, ça, mais c'est vraiment anecdotique.
Rien, hein. C'est-à-dire que les gens verront qu'un seul des deux, etc. Mais c'est, je trouve ça génial d'un point de vue intention, quoi. Je sais pas si ça... je crois que c'est un truc qui a pu se faire.
Ça a existé.
Je sais pas,
oui.
Si ça, j'ai l'impression que ça me dit quelque part que certains films avec des fins différentes. Et puis qu'après, qui garde celle qui a le plus de succès, machin, etc. Ça
nous donne un truc. En tout cas, des montages différents, je sais que ça a dû exister quelque part. Et pour expliquer aux gens qui ne sauraient pas, il y a deux montages du film, et c'est effectivement complètement aléatoire dans les salles. Les différences sont méga mineures. Hein. Méga, méga mineures. C'est genre une réplique dans une scène. C'est ça, hein, il n'y a pas de grosses différences.
Ouais.
Donc oui, ça, c'est cool. J'allais dire un truc, et puis j'ai... oublié.
Ah bah je t'ai coupé, voilà. Oui, mais non, mais fin du podcast.
oui, donc à part cette fin frustrante, parce que c'est une fin qui n'est pas une fin, qui fait dire à certains, bah moi je jugerai le film quand j'aurai le film en entier, hein. On peut pas juger un film sur une moitié, ce que je peux comprendre. Mais oui, il est un petit peu sans défaut, hein, j'ai l'impression. Je lui vois pas vraiment de défaut qu'on puisse... établir comme ça de manière un petit peu objective, ça c'est juste pas bien, ça c'est raté, ça fonctionne pas. C'est rare que je dise d'un film, même dans les films que j'aime beaucoup, c'est très très rare que je puisse dire, bah là, tout fonctionne quoi, tout marche. Je crois.
Ouais, à minima, je pense que ça se jouera sur est-ce que les thématiques vous parlent particulièrement ou pas. Mais je pense que du reste, c'est assez. À minima, c'est très propre. Et au mieux, c'est intouchable sur certains moments, quoi.
Bon, eh ben, Spider-Man Across the Spider-Verse. Comme je le disais, je pense qu'il fait l'unanimité, donc c'est pas qu'on vous fait des... on a une take hyper controversée, là, dans cette
émission. Et il dépasse les attentes du studio sur le nombre d'entrées, etc. Donc, c'est très enthousiasmant, quoi.
Ouais, ah bah, il dépasse les attentes de... Mais on l'a dit... on l'a peut-être pas assez dit, il dépasse les attentes de tout le monde. Il a réussi un truc qui était... C'est tellement dur de réussir un truc qui, comme je le disais, va plus loin dans un truc qui était innovant et incroyable. Tu peux tellement trop en faire facilement que c'était impossible. Moi, même avec la dithyrambe sur le film, quand j'y suis allé... J'y suis allé un petit peu genre, ouais, bon, ok, on va voir. Je sais que tout le monde dit que, mais ça va être sympa, je suis sûr. Mais je ne m'attendais pas à un truc aussi fort. Entre parenthèses, sur Metacritic, il est à 86, comme je disais. Into the Spider-Verse est à 87. Donc, bon, il y a quand même une... Mais en user score, mais Into est un petit peu en dessous à 8.2 contre 8.4 pour Across. Donc, bon. Je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai très envie d'aller le revoir. Malheureusement, je ne peux pas. Mais bon, peut-être que je vais par défaut revoir Into, juste pour me sustenter un petit peu. Encore que, il faut voir le deuxième épisode de Secret Invasion. Donc, j'ai un truc à faire quand même. Je suis pas encore.
Ah oui, c'est vrai.
Tu vois, c'est aujourd'hui. C'est le deuxième, donc j'ai encore de l'espoir. Tu vois, si le deuxième est aussi décevant que le premier pour moi, le troisième, ça sera dur de se motiver. Mais là, je suis encore assez curieux de voir ce que ça donne. Donc, bon, et après, ça sera Into. Merci, Johan, d'avoir été avec moi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet quand tu n'es pas dans Super Laser Punch ?
Eh ben, on peut me retrouver sur Twitter quand mes comptes ne sont pas limités par, par Elon Musk. Donc, sur UNT_.
Magnifique. Et sur le Discord des émissions, bien sûr, on a un channel où on parle des derniers épisodes de Super Laser Punch, où vous pourrez débattre. Enfin, je dis on a ça, mais on a aussi des channels dédiés, un channel du forum, un sujet du forum sur Spider-Man spécifiquement, et notre repère des super, qui a été très bien nommé par toi, je crois, d'ailleurs, où on parle de trucs de super-héros. Où on parle de tout ce qui se passe, de l'actu, on a des hot takes toutes pétées, etc., etc. Donc vous pouvez venir sur le Discord, le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, NotePatrick, et tous les liens sur notepatrick.com pour tous les podcasts que je fais. le rendez-vous tech, l'actu tech toutes les semaines, le rendez-vous jeu, l'actu gaming toutes les semaines. Et on reviendra, je ne sais pas quand, sans doute pour donner notre avis sur Secret Invasion. Dans quelques
semaines. On ne fera probablement pas épisode par épisode.
Ouais, non, je pense pas, non. Je pense qu'on attendra que le truc soit... À moins que, tout à coup, ça soit incroyable. Mais, a priori,
tu vois, justement,
ça sera...
Alors, ça, c'est un truc que je t'ai pas dit, mais avant la sortie de Secret Invasion, je me disais, est-ce que je propose pas à Patrick d'en faire un épisode, de faire un podcast par épisode, parce que ça va être vraiment... On va essayer de deviner qui est un Skrull, qui n'est pas un Skrull. Et ça se profite pas comme ça, quoi.
Non, on ne disons pas jamais, hein, mais moi j'étais très enthousiaste pour la série. Hein. En plus, les trailers avaient l'air cool. Enfin, vraiment, moi, je me disais, ça va être super. J'aurais limite été OK pour faire... Bah là, non, en fait, non. On va attendre la fin de la série. En plus, il y a les vacances. Donc, en juillet, moi, je ne suis pas vraiment dispo. Ouais. Donc, on va voir comment ça va se passer. Peut-être que ça sera en août. On devra attendre jusqu'à août pour faire cet épisode. Et puis, je ne sais pas quelles sont les prochaines sorties. Bon, on verra.
Bah,
on
c'est The Marvels après en novembre, quoi. Mais ouais.
Ah, mais on va faire des trucs avant novembre quand même. On trouvera de quoi
faire. Je pense. Oui, on va trouver. J'espère.
On vous fait des gros bisous et on vous donne rendez-vous donc très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes.
Bisous. Hey, ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.